le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Christiane Capagna et voici vos manchettes. Tension grandissante entre poussettes et fauteuils roulants à Winnipeg. Un camp de vacances dédié aux familles vivant avec un enfant autiste. En France, Jamel C obtient sa carte d'invalidité et le tireur Doug Blessin sélectionné dans l'équipe Canada pour les Jeux paralympiques. Les personnes qui vivent avec des handicaps demandent à la ville de Winnipeg de faire en sorte que les règlements pour les sièges réservés à bord des autobus soient respectés. Le Independent Living Resource Center estime que les parents avec des poussettes prennent régulièrement les places pour fauteuils roulants, ce qui force les personnes à mobilité réduite à attendre l'autobus suivant. Alan Mekiewicz se déplace en fauteuil roulant et affirme devoir composer avec cette réalité tous les jours. Libis Driluk circule à bord d'un fauteuil roulant motorisé et dit avoir dû attendre par temps glacial pendant l'hiver parce que des poussettes prenaient la seule place disponible pour les fauteuils roulants. Elle souhaite que les chauffeurs d'autobus de Winnipeg Transit facilitent l'accès aux autobus en s'assurant de donner la priorité aux personnes à mobilité réduite. Elle affirme qu'à l'heure actuelle, les personnes à mobilité réduite sont forcées de se défendre elles-mêmes. « Je veux juste que les chauffeurs disent aux personnes de se tasser ou de descendre de l'autobus pour une minute, mais ils ne semblent pas vouloir le faire, croit-elle. » La ville de Winnipeg affirme que des indications au sol sont installées dans tous ses autobus adaptés pour les fauteuils roulants et les poussettes. Une porte-parole de la ville affirme que tous les chauffeurs sont formés pour aider un passager à bord d'un fauteuil roulant ou avec une poussette et doivent demander aux usagers sans problème de mobilité de bouger au besoin. Selon Eva Beaudoin, c'est un combat de trouver une place à bord des autobus quand une poussette s'y trouve. Elle est inconfortable de demander aux personnes de se déplacer lorsqu'ils sont déjà à bord de l'autobus. « Je reçois toujours un regard méchant quand je demande aux gens de céder leur place. Les gens ne bougent pas », affirme-t-elle. Certaines personnes à mobilité réduite ne croient cependant pas que les fauteuils roulants devraient systématiquement avoir priorité. Jim Derksken, un défenseur des droits des personnes handicapées, voudrait plutôt que la ville installe plus de sièges rétractables dans les autobus afin que les fauteuils roulants et les poussettes aient de la place. « Je crois au concept universel et je ne crois pas que nos besoins soient plus importants que ceux des parents de jeunes enfants », affirme-t-il. Le président du syndicat des chauffeurs d'autobus de Winnipeg, John Callahan, souhaite que plus d'autobus soient disponibles pour composer avec ce problème. Il dit que les chauffeurs sont préoccupés par les questions d'accessibilité à bord des autobus et le manque de consignes pour dire aux chauffeurs comment agir dans les circonstances. C'est un problème récurrent, affirme le président du syndicat, qui estime que la ville devrait sérieusement porter attention au problème. Le projet pilote de camp familial pour les familles vivant avec un ou des enfants souffrant du trouble du spectre de l'autisme, TSA, à la base de plein air Jean-Jeune de Longueuil, n'est pas seulement consacré aux enfants TSA, ni à la fratrie neurotypique, mais bien à toute la famille, incluant papa et maman. C'est unique au Québec. Nous accueillons les familles en entier parce que toute la famille vit le TSA par la bande, explique un des membres du conseil d'administration de la base de plein air Jean-Jeune, et administratrice de la page Facebook de Répit et Référence TED TSA, Karine Daou. Au départ, il s'agissait d'un projet pilote de 5 jours, mais ça a tellement été populaire que nous avons débloqué une 2e semaine. Nous avons été un peu victimes de notre succès. Pendant les 5 jours du camp familial, les frères et sœurs de l'enfant TSA pourront se joindre au groupe de camp de vacances réguliers. Les enfants TSA qui sont en mesure de participer aux activités régulières pourront aussi le faire avec leur accompagnateur. Sinon, ils pourront participer à une programmation exclusive pour eux. Pendant ce temps-là, il va aussi y avoir de l'animation et des activités pour les parents et pour toute la famille ensemble, précise Karine Daou. Je comparerais ça à un club Med tout inclus avec repas, hébergement, matériel spécialisé pour les enfants TSA et technicienne en éducation spécialisée. En intégrant les enfants TSA aux enfants neurotypiques lors des camps familiaux, Karine Daou souhaite non seulement les conscientiser aux différences, mais aussi conscientiser leurs parents, puisque même si la société ne cesse d'évoluer, de nombreux préjugés demeurent face aux enfants à besoins particuliers. Au Québec, les familles et les adultes neurotypiques commencent à comprendre la réalité des enfants TSA, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous avons une certaine possibilité de sensibiliser les enfants qui, eux, après, vont peut-être faire leur sensibilisation auprès de leurs proches, analyse-t-elle. Il est encore possible de s'inscrire pour la semaine du 24 au 28 juillet au 450-679-5017. Jamel C., amputé à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015, avait menacé d'entamer une grève de la faim parce qu'on lui refusait sa carte d'invalidité. Depuis 3 jours, l'info faisait la une de tous les médias. Nous en avons d'ailleurs parlé hier au Bulletin du handicap. Délivré par la Commission des droits de la maison départementale des personnes handicapées, MDPH, du lieu de résidence, en l'occurrence la Seine-Saint-Denis, la carte d'invalidité permet d'avoir accès en priorité aux places dans les transports, mais aussi de bénéficier de certains avantages fiscaux, comme une demi-part fiscale supplémentaire. À 2 reprises, la MDPH 93 lui a fait part de son refus. Une erreur? Non, elle a visiblement estimé que son handicap n'entraînait pas une invalidité de 80% et plus, condition sine qua non pour sa délivrance. Alertée, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, a obtenu, compte tenu des circonstances, une dérogation. La menace de Jamel, abondamment relayée par la presse, a visiblement permis d'accélérer le dossier. La médiatisation de cette affaire offre l'occasion de s'interroger sur le sort réservé aux victimes d'attentats et surtout sur le parcours administratif parfois fastidieux qu'ils doivent emprunter. La question des cartes d'invalidité n'est pas la plus complexe. Trouver un logement adapté, se réinsérer dans le milieu professionnel, bénéficier d'un accompagnement pour surmonter le choc post-traumatique, ce parcours de résilience, de reconstruction et d'inclusion se construit tout au long cours, et engage plusieurs ministères comme celui du logement, du travail ou celui délégué aux personnes handicapées. Dans une interview accordée à handicap.fr en novembre 2015, Françoise Rudetsky, cofondatrice de l'association SOS Attentat, tenait néanmoins à rappeler que depuis 1985, il existe en France un fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, financé par une contribution de solidarité nationale assise sur les contrats d'assurance. Elle explique que ce système unique au monde propose une prise en charge intégrale de tous les préjudices, qu'ils soient psychologiques, physiques, économiques ou professionnels. Il permet, par exemple, en cas de handicap, d'aménager le lieu de vie, de financer une reconversion professionnelle. Lorsque l'état de santé est stabilisé, les expertises évaluent les séquelles définitives et une indemnisation sous forme d'un capital ou d'une rente. Si 130 personnes ont perdu la vie le soir du 13 novembre 2015 dans les rues de Paris, 400 ont été blessées. Une 20aine de victimes sont toujours hospitalisées. La Fédération canadienne de tir et le Comité paralympique canadien ont annoncé hier que Doug Blessin, de Port-Coquitlam, en Colombie-Britannique, a été sélectionné pour les Jeux paralympiques de Rio 2016 en septembre. Blessin participera à ses 2e Jeux paralympiques, tirant dans les épreuves R4, soit carabine à l'air en position debout, et R5, carabine à l'air en position couchée. Aux Jeux paralympiques de Londres en 2012, le paratireur de 43 ans a terminé parmi les 25 premiers à la carabine à air en position couchée et à la carabine à air en position debout. Il s'est classé 15e au championnat du monde 2015 de carabine à air en position debout. Blessin a commencé sa carrière dans le parasport en rugby en fauteuil roulant après avoir subi une blessure à la moelle épinière dans un accident de voiture en décembre 1995. Avec la naissance de ses enfants, la vie est devenue occupée et Blessin a temporairement pris sa retraite de la compétition. Quand le temps lui a permis un retour dans les sports compétitifs à 37 ans, il a adopté le paratir. Le paratir est l'un des 22 sports d'été dans le programme des Jeux paralympiques et est pratiqué par des athlètes ayant différents handicaps. C'était votre bulletin du handicap sur Canal M, la radio de Visez-Voix. Si vous êtes un organisme, vous pouvez nous envoyer vos nouvelles et activités à canalm@visezvoix.com. Bonne journée tout le monde.